toute discrétion avec les deux spécialistes, Sonia et Aline, celles qu'on surnomme Lavo et Matic. Et bien sûr, mes meilleurs plans investissement cachés dans les banques les plus discrètes de chez nos amis du Panama et de Hong Kong au 01 45 24 7000. Appel surtaxé, 120 euros la minute. Allez, bisous. Et rappelez-vous, la vie est formidable quand elle est non imposable.
On va vous confier la chronique, Daniel.
Je suis prêt.
Je vous le laisse. Bonjour, Nicolas Demorand.
Bonjour, Mathilde Munoz. France Inter, 7h.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Jeudi de mai, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des intérimaires en nombre dans les hôpitaux d'Île-de-France.
Le recours à l'intérim a bondi de 26% au premier trimestre. C'est une information France Inter, précision dès le début du journal. Pas encore de bilan après la vague d'orage hier, mais beaucoup de grêle dans les vignobles de Chablis. Démantèlement d'un camp de migrants à Dublin alors que la tension monte entre le Royaume-Uni et l'Irlande sur fond de plan Rwanda. Et puis les supporters parisiens qui croient encore en la qualification de leur équipe pour la finale de la Ligue des Champions malgré la défaite 1-0 hier contre Dortmund.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. La criminalité organisée, le trafic de drogue en France, le ministre de la Justice en a fait sa priorité. Nous en parlons avec Laure Bécuau, elle est procureure de Paris, en première ligne donc dans la lutte contre le grand banditisme.
A tout à l'heure, à 8h20, le grand entretien consacré aux mouvements étudiants pro-palestiniens en France et aux États-Unis. Trois invités, Hugo Micheron, Roger Cohen et Anne Muxel. À 9h20, Léa Salamé reçoit l'actrice Isilde Lebesco.
France Inter.
C'était il y a un peu plus d'un an, l'entrée en vigueur de la loi Rist sur l'intérim dans les hôpitaux. Le gouvernement voulait se battre contre cet intérim mercenaire. Ces médecins grassement payés pour boucher les trous des plannings de l'hôpital public en manque de bras, leur rémunération avait été plafonnée. Sauf qu'un an plus tard, le recours aux soignants intérimaires est très loin d'être terminé. Et c'est vous qui nous le révélez ce matin pour Inter. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Spécialiste santé, un bon exemple de cet intérim qui continue à tourner à plein. Dans les hôpitaux parisiens de la PHP, le recours aux intérimaires a bondi de 26% au premier trimestre.
Oui, sur les 38 hôpitaux en Île-de-France, ce sont surtout les infirmiers qui manquent à l'appel. Et pour ne pas fermer certains services, la direction de la PHP a massivement eu recours à l'intérim, plus 26% sur les trois premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année dernière. Dans certains établissements, l'intérim explose carrément, plus 145% de missions d'intérim par exemple à l'hôpital Beaujon, situé à Clichy. Pour sa défense, la direction des hôpitaux parisiens nous assure que cette augmentation du recours à l'intérim est conjoncturelle. Cette tendance doit, je cite, « s'inverser à partir du mois de mai dans l'objectif de réduire au global les dépenses d'intérim ». Car c'est le problème, ce recours aux intérimaires coûte cher, très cher à la PHP, plusieurs dizaines de millions d'euros en plus des budgets déjà prévus.
Et il n'y a pas que l'Île-de-France, partout les médecins manquent et malgré le plafonnement prévu de leur rémunération, les dépassements et les dérogations se multiplient, c'est ce que vous avez constaté dans votre enquête, Victor.
Oui, depuis le 1er avril 2023, un médecin intérimaire ne peut pas être payé plus de 1390 euros bruts pour assurer une garde de 24 heures. Ça, c'est la loi, sauf que dans les faits, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, assure l'urgentiste Éric Reboly, président du syndicat des médecins remplaçants hospitaliers.
Ça ne fonctionne toujours pas. L'ARS, avec le soutien évidemment des directeurs d'hôpitaux, a dépassé largement ses plafonds. Il les a explosés, même on peut dire, puisque depuis un an, il y a des dérogations tous les jours, partout, pour sauver les hôpitaux et les services.
Nous avons pu consulter des dizaines d'offres d'intérim. L'hôpital d'Orléans propose par exemple une garde aux urgences le dimanche, payée 2500 euros bruts. Même tarif offert à Nevers, à l'hôpital de Bourges, c'est plus de 2600 euros pour la même vacation. On est presque deux fois au-dessus du tarif légal et à chaque fois, c'est l'Agence régionale de santé qui valide ces dérogations.
Enquête de Victor Dolande et ses chiffres à retrouver sur franceinter.fr. Mieux que le Royaume-Uni et mieux que l'Allemagne, la France est championne d'Europe de l'attractivité pour les investissements étrangers, selon le baromètre du cabinet Ernst & Young. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, si les étrangers choisissent la France, c'est pour la qualité de sa main-d'œuvre et son environnement juridique et réglementaire. Il y a eu en France l'année dernière près de 1200 projets, plus donc qu'au Royaume-Uni en Allemagne. En revanche, il s'agit aux deux tiers d'extensions de sites et non pas de projets qui partent de zéro, contrairement à ceux de nos voisins, avec par conséquent des créations d'emplois par projet moins nombreuses. Une trentaine de vols déroutés hier des aéroports parisiens vers Lille, Lyon, Nantes ou encore Bruxelles à cause des forts orages qui ont balayé l'Île-de-France. Météo France avait placé la région en vigilance orange. Il est tombé localement en 2 heures l'équivalent de 2 semaines de pluie d'un mois de mai. Des grêlons de la taille d'une balle de golf aussi. Idem en Bourgogne, des dégâts dans les vignobles de Chablis dans l'Yonne. En Côte d'Or également, l'orage de grêle a été particulièrement violent. Cet agriculteur de 62 ans près de Vito se souvient avoir vu une tempête comparable lorsqu'il était ado en 1976, mais jamais rien de tel depuis.
Autour de 17h30, 18h, un coup de tonnerre, deux coups de tonnerre. On s'est dit, tiens, il va faire de l'orage, la météo, ils ne se sont pas trompés, ceci, cela. Et d'un seul coup, on a vu un gros nuage blanc qui venait du côté de Pouilly-en-Ourcq, qui venait sur chez nous, et on a entendu un roulement de tambour, et c'était certainement la grêle qui tombait déjà à 7 km de l'exploitation. On a juste eu le temps de rentrer les voitures, le matériel, que moi j'étais dans la stabule, donc j'ai entendu un fracas, donc c'était des grêlons secs de la taille d'une balle de ping-pong qui ont affolé les bêtes dans la stabule et même d'ailleurs il y a eu des dégâts matériels. Pendant 20 minutes, la taille des grêlons a diminué et accompagné d'eau, mais ça a duré 20 minutes, ça a blanchi toute la cour, tout. Une fois terminé, on s'est tous regardés, mon fils, ma femme, ma fille, en disant encore une drôle d'année. Donc on s'est tout de suite inquiété au niveau des céréales, mais on n'a pas vraiment fait tout le tour. À l'heure qu'il est, je ne peux pas indiquer les dégâts qu'il y a.
Luc Dupaquier, agriculteur avec Thomas Nougaillon de France Bleu Bourgogne, des agriculteurs qu'Emmanuel Macron reçoit dans la matinée pour acter à l'Élysée la fin de la crise de cet hiver. On se souvient du président de la République sous les huées du salon de l'agriculture en février, donnant rendez-vous 3 semaines plus tard. 2 mois après, le gouvernement a donc pris une soixantaine d'engagements, asséchant pratiquement les revendications de la FNSEA. En période de restrictions budgétaires, l'ensemble du paquet de mesures représente entre 500 et 600 millions d'euros pour les finances publiques, selon le ministre de l'agriculture. Une embarcation en difficulté avec son bord, 66 personnes dont des femmes et des enfants secourus hier après-midi au large de Dieppe. Les migrants qui tentaient de traverser la Manche ont été hébergés dans un gymnase de la ville. 3 personnes soupçonnées d'être des passeurs ont été placées en garde à vue.
Il est 7h07, des tentatives de traversée visiblement pas découragées par la loi Rwanda au Royaume-Uni.
Cette loi qui permet désormais aux autorités britanniques d'expulser vers ce pays d'Afrique les migrants arrivés illégalement sur son territoire, y compris les demandeurs d'asile, ce qui a des répercussions directement en Irlande, attisant les tensions avec son voisin. Des dizaines de demandeurs d'asile quittent en effet la Grande-Bretagne, ferry ou avion pour Belfast en Irlande du Nord, puis le bus pour Dublin. Dans la capitale irlandaise, un campement d'une centaine de tentes a poussé en plein centre-ville. Hier, les autorités ont tenté d'évacuer les exilés vers des logements plus loin. Reportage à Dublin de Clémence Pénard.
Des barrières et des policiers pour bloquer la route devant l'Office de protection internationale. C'est là, dans une tente sur le trottoir, qu'a vécu pendant près d'un an Pierre Samy, originaire de Turquie.
On est en sécurité nulle part. Nulle part on peut commencer sa vie. Le plan Rwanda est raciste. Vous m'envoyez sur un autre continent, sans mon avis. Vous me forcez. Demander l'asile n'est pas un crime. Moi, j'ai peur du gouvernement. Ce qui s'est passé ici, c'est une décision du gouvernement.
Selon les autorités irlandaises, 90% des arrivées récentes de sans-papiers se font via la frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord. Gary Daly est avocat et il défend l'accueil des migrants.
Nous nous attendons à voir beaucoup plus de gens nous dire qu'ils étaient en Grande-Bretagne, mais qu'ils ont dû partir par peur d'être envoyés au Rwanda. Il y a eu récemment une décision de la Haute Cour de justice irlandaise qui a considéré la Grande-Bretagne comme un pays dangereux pour les demandeurs d'asile, en raison de ce plan Rwanda. Ça va mettre le gouvernement irlandais dans une position très difficile.
Le Premier ministre Simon Harris, qui veut se montrer ferme face à l'immigration à l'approche de plusieurs élections, veut en effet légiférer d'urgence pour pouvoir renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni.
Et selon des médias irlandais, une centaine de policiers pourraient être prochainement déployés à la frontière avec l'Irlande du Nord. L'ode à la joie et des drapeaux européens et géorgiens hier soir lors d'une nouvelle journée de mobilisation à Tbilissi. Encore des dizaines de milliers d'opposants à la loi adoptée hier en seconde lecture par le Parlement. Elle s'inspire d'un texte russe utilisé par le Kremlin pour museler les dissidents. Les manifestants, comme la veille, ont été dispersés par la police, cette fois par des canons à eau et du gaz poivre. Des violences aussi la nuit dernière à Los Angeles. Le campement d'étudiants pro-palestiniens palestinien de l'université violemment attaqué par des personnes cagoulées et masquées, armées de bâtons. Plus d'une vingtaine d'étudiants hospitalisés selon les témoignages sur place. Ce n'est que 2 heures après le début des heurts que la police anti-émeute est intervenue pour séparer les deux camps. Et pendant que la Colombie a décidé hier de couper les ponts avec Israël, le président de gauche, Gustavo Petro, dit vouloir rompre les liens diplomatiques avec Benjamin Netanyahou, qu'il qualifie de génocidaire. Israël a immédiatement accusé le président colombien de récompenser le Hamas.
Il est 7h10, 6 mois d'attente pour passer son permis de conduire en Seine-Saint-Denis.
Un délai délirant pour les apprentis conducteurs dans ce département qui plus est le plus jeune de France métropolitaine, un habitant sur 3 à moins de 25 ans. Eh bien, il n'y a tout simplement pas assez d'inspecteurs en Seine-Saint-Denis. Le département n'est pas assez attractif. Sur les 6 derniers mois, plus de 10 sont partis selon les syndicats d'auto-école. Ça crée donc des embouteillages pour passer son permis, François Ventéjoux.
Les mains sur le volant de la voiture école, Quentin entame sa dernière ligne droite.
25, 26, j'approche des 30 heures.
Il est bientôt prêt à passer son permis de conduire, mais pour l'instant, pas de créneau disponible avant juillet. Alors d'ici là, il compte poursuivre les cours.
Si je perds 4 mois à attendre, je vais perdre ma conduite. J'aurai besoin de conduire pour arriver au jour de l'examen comme il faut.
Entraîner les apprentis conducteurs sans trop les faire payer, c'est la difficulté pour les formateurs. Mélina Maouche travaille à l'auto-école du Parc à Livry-Gargan.
Alors avant, on faisait conduire les élèves à peu près 3 fois par semaine. Actuellement, on les fait conduire 1 fois par semaine uniquement, voire 1 fois tous les 10 jours pour essayer d'étaler leurs heures jusqu'à une éventuelle place d'examen.
L'attente est passée de 2 à 6 mois en un an. Wissam Ebarki est délégué de l'Union nationale des indépendants de la conduite.
On ne peut pas leur en vouloir aux inspecteurs, c'est tout à fait normal. Par contre, on peut en vouloir aux politiques, à l'administration, qui n'a pas anticipé sur l'arrivée d'autres inspecteurs. Là, à la dernière réunion, on nous annonce qu'il y aura des inspecteurs qui vont rentrer à l'école qu'à partir du mois de juin.
De son côté, le syndicat Force ouvrière majoritaire chez les inspecteurs met en avant le manque de préparation de certains élèves. En Seine-Saint-Denis, le taux de réussite est seulement de 50%, ce qui participe à la saturation du système.
Reportage François Ventéjoux. Le Paris Saint-Germain en ballotage défavorable après le match aller de demi-finale de la Ligue des champions de football. Défaite 1-0 sur la pelouse de Dortmund hier. Mais rien n'est fini, dit le capitaine. Tout est donc encore possible mardi prochain au Parc des Princes. Et les supporters que vous avez rencontrés hier à Dortmund, Xavier Monferrand, ne disent pas autre chose.
À la sortie du stade, les supporters parisiens avaient perdu le sourire, mais pas l'espoir. Ils en ont vu d'autres. Et pour Sophie, c'est presque un mal pour un bien.
Pour être abonné de longue date et avoir souffert pour le PSG, j'aime bien cette position dans laquelle on va arriver la semaine prochaine, où justement on a tout approuvé et on n'arrive pas en mode « c'est sûr, on gagne ». Donc j'aime bien.
En coulisses, aucune inquiétude. La confiance des joueurs était intacte après le match, à l'image du gardien italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, déjà la tête au match retour.
C'est seulement le premier mi-temps et je suis sûr qu'à Paris, c'est un autre match. C'est encore tout ouvert. Je sais que l'équipe m'a donné tout pour aller à la finale. Ça, c'est très important.
Dès le coup de sifflet final, Luis Enrique est allé haranguer les supporters parisiens, brandir le poing devant le parquage, façon rien n'est joué et pas besoin de longs discours pour l'entraîneur du PSG.
Nous n'avons plus rien à perdre, on va aller chercher cette finale.
Et les Parisiens seront au repos ce week-end avec pour seul horizon ce match retour mardi prochain pour tenter de refaire le coup de Barcelone.
Et autre Coupe d'Europe ce soir, la Ligue Europa. Marseille reçoit pour la demi-finale aller l'Atalanta Bergame dans un stade Vélodrome, bien sûr, à guichet fermé.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui, reportage sur un plateau de tournage après MeToo.
Le soir, sur France Inter, 2 heures d'infos internationales et interactives.
Le 18-20, Fabienne Sintès.
À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète. En 40 minutes avec des experts, des témoins, nos correspondants et la rédaction internationale de Radio France.
Et quand ils attaquent, ça fait comme un tremblement de terre.
À 19h20, vous intervenez, vos questions à nos invités autour d'un thème qui vous concerne, c'est le téléphone sonne.
Le 18-20.
C'est du lundi au vendredi à 18h sur Inter.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2, alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe!
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
Il est 7h14.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
J'ai eu de la peine, beaucoup de peine, en finissant mort de rire, la 12e et dernière saison de la série Curb Your Enthusiasm, en français Larry et son nombril. 80 secondes ce matin sur ce chef-d'œuvre comique absolu, dans lequel Larry David, producteur richissime de la série Seinfeld, joue son propre rôle de producteur richissime de la série Seinfeld. La particularité du personnage est qu'il n'a pas de fil, qu'il dit tout haut ce qu'il pense des gens, de leur comportement, du politiquement correct, des conventions sociales dont il refuse l'absurde légitimité. C'est à crever de rire, d'autant que la série est largement improvisée et qu'on sent souvent les acteurs à deux doigts du fou rire. La dernière saison de la série a donné lieu à une masse d'articles dans la presse américaine. Impossible de tous les citer. Le New York Times se penche sur la question du vêtement dans Curb, Larry David en faisant un point d'obsession alors qu'il est habillé comme l'as de pique. Le site Eater classe les plus gros scandales que crée Larry David dans les restaurants de Los Angeles. Slate se moque de la droite américaine qui découvre que Larry David, le vrai, passe son double de télévision et viscéralement anti-Trump. Il pense que l'ancien président est un sociopathe et un malade. Quant à The Atlantic, le magazine disserte longuement sur une série qui jusqu'au bout refusera d'être une parabole de quoi que ce soit. Une dernière chose, cette ultime saison tranche définitivement la polémique sur les deux derniers épisodes de la série Seinfeld, écrit par Larry David et qui ont, en 1998, suscité un débat passionné parmi les fans, certains criant au génie, d'autres les trouvant totalement ratés. Sur le sujet, vous aurez donc le verdict réflexif, désopilant, 26 ans plus tard. La série est à voir sur Amazon Prime avec le pass Warner. Et maintenant le zoom. À quoi ressemble aujourd'hui un tournage de cinéma ? Un plateau est-il le même après l'affaire Godrèche et alors qu'un procès pour agression sexuelle se profile pour Gérard Depardieu ? Depuis l'éclosion du phénomène MeToo, le cinéma vit une révolution avec l'apparition de nouveaux métiers plus attentifs à la parole de chacun et chacune. Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour.
À quelques jours du lancement du Festival de Cannes, vous vous êtes rendue sur le tournage du film Une fille sans histoire avec Cécile de France et deux jeunes comédiennes dans les rôles principaux, un exemple de cinéma post-MeToo.
Et sur ce tournage, on y croise des actrices, un réalisateur, un chef opérateur, des coiffeuses et maquilleuses, mais aussi un nouveau poste sur la feuille de service, les référents harcèlement.
Ça tourne.
Arthur Van Rooyen est assistant plateau, il a été volontaire pour endosser le rôle.
C'est si besoin est, et en espérant qu'il n'y ait pas de besoin, que quelqu'un veuille parler à quelqu'un de confiance, et nous après on peut en débattre avec les autres référents, aller en parler à la production s'il y a un quelconque problème pour cette personne.
Car la cause lui tient à cœur, il fallait mettre fin à des abus et des violences.
J'ai entendu beaucoup d'histoires pas super chouettes sur des anciens plateaux où moi je ne travaillais pas encore dans ce domaine-ci, et aujourd'hui on en parle. Rien que le fait d'en parler, ça a créé, je pense, une atmosphère un peu réconfortante où les gens se sentent bien. Et ça amène du coup, à mon avis, moins de comportements déplacés et même moins de personnes déplacées.
La productrice du film, Valérie Garcia, parmi les rares femmes à cette fonction, défend ses nouveautés sur les tournages et s'implique elle aussi pour de meilleurs comportements.
On a mis ça en place, comme à l'époque d'ailleurs, en France, le CNC a mis en place la petite formation pour tous les productrices producteurs pour avoir leur diplôme. C'est une sorte de formation, de savoir comment se comporter, nous, en tant que productrices ou producteurs, quand il y a un problème sur un tournage, justement du sujet du harcèlement.
Des nouveautés, donc, Amélie, dans l'organisation des tournages, mais aussi peut-être dans ce que racontent les films.
Et ce long-métrage-là, le premier de Nicolas Quetel, scénariste et réalisateur d'Une fille sans histoire, en est un exemple parlant. Le jeune homme a écrit un film dont les trois rôles principaux sont trois rôles de femmes.
Moi, j'ai été élevé par ma mère et j'avais une sœur, donc dans un univers très, très féminin. C'est très naturellement, je ne sais pas, je me suis dirigé vers ça. C'est la première fois que j'écris des héroïnes féminines. En tout cas, sur mes courts-métrages, c'était tout le temps des hommes qui étaient les personnages principaux. Donc, ça fait du bien de changer de point de vue.
Cécile de France joue la mère de deux filles que des événements violents vont séparer. Salomé de Waals a été conquise par cette histoire de femme écrite par un homme.
C'est vrai que je m'étais fait la réflexion, tiens, c'est un homme, quelle est sa vision sur les personnages féminins ? Et très vite, il a répondu à toutes mes attentes. Et je pense pas qu'un homme ne puisse pas parler de femme tant qu'il arrive à rester à sa place et à accepter de se remettre en question à certains moments. Donc voilà, je lui ai fait tout de suite vraiment confiance et on a retravaillé des petites choses ensemble que moi qui me paraissaient moins naturelles pour moi et il a été très ok de faire ces petits changements.
Un enthousiasme partagé par sa sœur à l'écran, la comédienne Diane Rouxel, car effectivement les rôles forts pour des femmes ne sont pas si courants.
Ouais, c'est rare, c'est ce qu'on se disait, ouais, c'est que des personnages forts, plein de gros enjeux, de choses intenses à jouer, toutes les trois, non, c'est vachement bien. On est vraiment ensemble, quoi. On a vraiment envie de s'aider, de se porter. J'ai vraiment senti ça hier. On a fait une scène avec Salomé, on avait vraiment des frissons toutes les deux. Et on s'est vachement dit après que, voilà, que ça avait été bien, quoi. On avait vraiment vécu, même nous, en tant qu'actrice, un moment assez fort.
Une fille sans histoire, c'est le titre du film. Sans histoire, mais pas sans promesse pour le cinéma qui s'invente aujourd'hui.
Amélie Perrier, merci pour ce zoom. À retrouver sur franceinter.fr. Et je vous rappelle que l'actrice Isilde Lebesco sera l'invitée de Léa Salamé à 9h20. Elle fait partie des actrices qui témoignent dans le sillage du MeToo du cinéma français.
Le 7-10 sur France Inter.
7h21 en toute subjectivité avec la directrice déléguée de la rédaction de L'Express, Anne Rosenchère. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Et ce matin, Anne, vous revenez sur les débats autour de TikTok.
Deux syllabes si légères pour des enjeux si lourds. Alors déjà, Nicolas, rappelons que TikTok est une application détenue par la société chinoise ByteDance et fondée sur le partage de vidéos amateurs. Elle compte 1,12 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Théoriquement, elle est interdite au moins de 13 ans, même si selon des documents internes révélés en 2020 par le New York Times, un tiers des utilisateurs américains avaient à l'époque en réalité moins de 14 ans. Le temps moyen passé sur TikTok tournerait autour de 90 minutes par jour, mais certains ados peuvent y être happés 6, 8, voire 10 heures en une seule journée. Voilà pour cadrer un peu le phénomène. Récemment, les États-Unis ont durci le ton vis-à-vis de la firme chinoise. Le Sénat vient d'y faire voter une loi ouvrant la possibilité de bannir TikTok du pays si ByteDance ne vendait pas sa branche américaine pour couper tout lien avec la Chine. En effet, les États-Unis considèrent que ce réseau social compromet la sécurité nationale, menace d'espionnage, possibilité d'influencer les opinions, etc. L'Union européenne, elle, s'inquiète des dangers pour la santé mentale des plus jeunes et a commandé une étude pour établir d'éventuels liens entre les algorithmes TikTok et l'aggravation de certains troubles. Que ce soit sur le dossier de la souveraineté ou sur celui des enjeux sanitaires, les preuves directes de la menace sont très difficiles à établir. Mais le fait que les États-Unis et l'Europe bougent sur la question, les premiers bien plus fermement, disons-le, signifie peut-être que nous sortons d'une certaine naïveté.
Mais quelle naïveté ?
On veut éviter de se dire dans 10 ans, comment a-t-on pu passer à côté d'un sujet aussi énorme ? Surtout qu'aux enjeux déjà cités s'ajoute la question de la guerre idéologique qui se mène sur TikTok. Sur ce thème, il faut écouter le chercheur spécialiste du djihadisme, Hugo Micheron. Il alertait récemment dans Le Figaro. La plateforme privilégiée par les 15-25 ans pour se socialiser et s'informer est surinvestie par les réseaux religieux en tout genre et notamment salafistes. Le djihadisme, en dehors des attentats, c'est de la diffusion idéologique et aujourd'hui, les machines de prédication sont très largement virtuelles. Elles produisent un univers mental aidé par les algorithmes. Fin de citation. C'est un fait. Face à l'offensive islamiste auprès des jeunes, on ne cesse de se tourner vers l'école, mais franchement, que peut une heure supplémentaire d'éducation morale et civique face à TikTok si on laisse ces algorithmes en roue libre ? TikTok est le symbole des nouveaux défis lancés aux démocraties libérales d'un point de vue philosophique, politique et économique. Est-il possible de réguler ? À défaut, faut-il interdire ? L'Europe peut-elle se mettre d'accord sur le sujet ou faudra-t-il décider d'une souveraineté nationale dans le domaine ? En tout cas, occupons-nous de la question TikTok, car TikTok s'occupe déjà de nous et de nos enfants.
Merci Anne-Rose Encher et à jeudi prochain. Hugo Micheron sera l'un des invités du Grand Entretien dans une heure.
Le 7-10 sur France Inter.
Et bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Nicolas, hola a todos.
Bastien Lallemand et Elisabeth Spetro sont à l'affiche de Musique Aline ce matin pour une noble cause, nous initier à la paresse.
La sagesse de l'ennui.
La paresse. L'après-midi, la paresse.
Dans La paresse, sixième album de Bastien Lallemand, on découvre un recueil de 10 chansons écrites et composées comme des scénettes de films sur les sentiments amoureux. Une initiation à la paresse accélérée et dans l'anonymat, qui ne laisse aucun doute sur les intentions d'Elisabeth Spetro. L'artiste a accepté de chanter aux côtés de Bastien Lallemand, mais en toute discrétion.
Mais la foule.
L'anonymat en playlist sur France Inter, Bastien Lallemand s'est inspiré d'épisodes que lui a raconté Elisabeth Spetro pour en écrire les musiques. Silence, ça tourne sur la platine.
Toi et moi, on se tient loin du soleil. Notre amour se méfie du soleil. Le soleil ne comprend rien. Le soleil se lève comme chaque jour.
Clap 1, vision panoramique. La caméra avance, gros plan sur un couple illégitime qui joue à cache-cache avec les rayons du soleil. Outre la musique, Bastien Lallemand a aussi composé les dessins de la pochette et du livret du disque. Décidément pour un album intitulé oui. La paresse, il s'agit là d'un vaste et long processus de recherche assorti d'un traitement particulier sur les voix, enregistrées non pas live comme dans les albums précédents, mais travaillé sur la justesse du jeu comme pour des acteurs. Une œuvre complète qui ne laisse ouais. rien au hasard.
Et c'est un vrai travail d'équipe.
Oui Nicolas, Bastien Lallemand s'est entouré de musiciens dont il admire le travail et dont nous, auditeurs, connaissons bien le talent et certains noms. Babix touche à toutes les touches de clavier, piano et autres synthés, ou encore JP Nataf à la basse ou à la réalisation de l'album. On s'est amusé beaucoup, on a parlé souvent de musique de Nino Rota, Balabamenti, oh là là, Morricone, ou encore raconte Bastien Lallemand, qui est écrivain et peintre, qui s'est inspiré de Serge Revzani. Vous allez l'écouter là tout de suite.
Allez, c'est parti.
Tu es ainsi, je sais, oui, je le sais, apprendre ou à laisser. Rien ne peut te changer, les choses sont ainsi, apprendre ou à laisser.
Bastien Lallemand avait donc l'auteur, compositeur, écrivain et peintre iranien Serge Revzani à l'esprit quand il a composé « Apprendre ou à laisser ». Mais moi, j'y entends aussi l'influence d'un autre Serge dans la voix. Apprendre, oui, et à conserver, Nicolas, cet album.
La paresse, le nouveau disque de Bastien Lallemand est disponible. Il sera en concert les 24 et 25 mai à Marseille et le 17 juin à Paris. Merci Aline.
Merci.
La météo sans paresse à suivre avec Marie-Pierre Planchon.
France Inter, c'est aussi sur les assistants vocaux. Sur Alexa, dites « Alexa, lance France Inter ».
France Inter, le direct.
Pour écouter la radio en direct.
À la maison, en voiture, sur mobile, France Inter, à portée de voix. La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs, en pharmacie et parapharmacie. À
À Kéline, nous, c'est le pied.
Et le temps, nous, c'est le pied aussi. Le temps reste assez agité, Marie-Pierre.
Eh oui, on n'est pas gâté, Nicolas, pour ce début mai avec dès ce matin de la Normandie aux Hauts-de-France au pourtour méditerranéen. Un ciel très couvert, des pluies parfois soutenues sur le Grand Est avec des orages encore sur les Ardennes cet après-midi. Des pluies parfois aussi soutenues sur la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Méditerranée, excepté sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et puis cette large moitié Est restera sous ce ciel bien chargé cet après-midi avec la Corse en plus qui reste coincée à cause d'une goutte froide sous les orages cet après-midi. Sur la façade atlantique, ce matin par contre sera soumis aussi à un régime d'averses qui va affecter les régions allant de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. Ces averses seront plus soutenues sur le sud-ouest. Elles seront accompagnées de rafales de vent. Mais la situation va s'améliorer un petit peu sur le sud-ouest en journée avec des averses moins fréquentes et toujours du vent. Ces averses s'étendront aussi en journée de la Basse-Normandie en descendant Val-de-Voire aux Pyrénées où il neige à basse altitude pour la saison comme sur le Massif central et les Alpes à 1200 mètres.
Fraîcheur remarquable.
Oui, matin comme après-midi, Nicolas, le jour s'élevait avec seulement 3 degrés à Mende, 6 à Lorient ou à Saint-Giron, 7 à Laval et Saint-Étienne, 10 à Lille comme à Marseille, 11 à Paris et encore 14 à Nancy comme à Calvi. Puis en journée, idem, ça va baisser, pas plus de 10 à Lourdes, 12 à Lyon, 14 à Quimper comme à Paris. Vous aurez 15 à Nevers comme à La Grasse, 16 à Bordeaux et à Antibes et encore 19 à Strasbourg comme à Bastia.
Merci Marie-Pierre, 7h30. Et le journal d'Inter, Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Gare aux arnaques, elles pullulent et sont de plus en plus inventives. En ce moment, des escrocs se font passer pour le groupe Amazon. La gendarmerie alerte. 2 mois après le face-à-face, une dernière entrevue. Emmanuel Macron reçoit les agriculteurs pour solder les comptes. 2 sites du groupe automobile Stellantis toujours au point mort. Un sous-traitant fait grève pour sauver ses emplois. Nous irons en Ukraine où les familles de civils arrêtés par les Russes sont sans nouvelles de leurs proches depuis le début de la guerre. Enfin, Tik et Nook ou comment aller au théâtre à prix cassé. Nous vous présenteront cette nouvelle appli.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui Laurence Bécuot, la procureure de la République de Paris.
France Inter. Si vous avez aimé l'arnaque aux faux conseillers bancaires, aux faux policiers, si vous avez été victime d'arnaque aux panneaux solaires, aux placements financiers ou encore au stationnement, vous allez adorer la dernière en date. Des escrocs se font passer en ce moment pour Amazon pour vous soutirer vos informations personnelles et vous voler par la suite. Et les escrocs, cette fois, ne passent pas par Internet. Ils envoient à l'ancienne, par courrier postal, une lettre à l'entête d'Amazon avec un QR code. Aurélien Tirard.
Lorsqu'il lit cette lettre chez lui à Annecy, Nicolas Renaud est pris d'un doute. Ce courrier à l'entête d'Amazon lui propose de tester des produits contre de l'argent en flashant un QR code. Mais ce que les escrocs ignorent, c'est que Nicolas Renaud est gendarme et enquêteur spécialisé contre les escroqueries. Il découvre vite la supercherie.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la qualité de l'impression, le mot de clôture, tous mes vœux, et puis surtout une adresse mail, ce qui ne correspondait pas du tout à Amazon. Donc avec des collègues, on a essayé de regarder le QR code qui était présent sur la carte.
Un QR code qui renvoie sur un site internet.
L'objectif, c'est de récupérer des noms, des prénoms, des adresses mail, des numéros de carte bancaire. Parce que déjà, ces informations, dans un premier temps, on peut les vendre sur le darknet. Et puis aussi, on peut les réutiliser.
L'arnaque consiste, une fois alors muni des informations personnelles, à se faire passer pour la banque de la victime et à contacter cette dernière pour lui voler de l'argent. Une pratique très difficile à contrer, confie ce gendarme.
Pour nous, c'est très très difficile de remonter ces structures. C'est une véritable course contre la montre à laquelle nous devons faire face aujourd'hui.
L'enquête ne fait que commencer pour savoir qui se cache derrière cette nouvelle escroquerie. Impossible à ce stade de savoir combien de personnes ont été arnaquées de la sorte.
L'enquête d'Aurélien Tirard, cette information qui vient de nous parvenir. Une femme est morte dans l'Aisne à Courmelles à la suite d'une coulée de boue après les forts orages d'hier. Elle avait 57 ans. Son conjoint est à l'hôpital. On y reviendra dans le journal de 8h.
Il est 7h33 pour solde de tout compte.
Emmanuel Macron reçoit les agriculteurs à l'Élysée ce matin, une promesse qu'il leur avait faite au pic de la fièvre lors du salon de l'agriculture. Depuis, le gouvernement a donné des gages avec une ultime série d'annonces le week-end dernier, avec par exemple la retraite calculée sur les 25 meilleures années. Alors Agnès Soubiran, les syndicats sont-ils convaincus et quelles sont désormais leurs priorités ?
La crise n'est pas derrière nous, martèle Laurence Marandola depuis son exploitation en Ariège. La porte-parole de la Confédération paysanne, particulièrement remontée contre le nouveau régime des retraites. retraite.
Il fera des perdants, ce système. Et ça, on le dira au président de la République, c'est pas acceptable d'entamer une réforme qui laissera encore beaucoup de paysans sur le côté avec des retraites de misère.
Quant au projet hydraulique, aux aides à la trésorerie, elle regrette qu'ils aillent tous dans le même sens.
Beaucoup des mesures sont effectivement fléchées vers les exploitations en grande culture, vers le secteur exportateurs également.
Et surtout, un sujet a été oublié.
Les prix planchers pour arrêter de travailler à perte, ça n'a pas été souligné dans les annonces du week-end dernier.
On est dans la construction, estime de son côté Pierry Corel, éleveur et cultivateur dans les Alpes de Haute-Provence, qui attend cependant une prise de position sur le plan Ecophyto 2030, qui prévoit une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.
Que le président de la République nous dise clairement la position de la France.
Et en tant que secrétaire général des jeunes agriculteurs, il est particulièrement attentif à l'avenir.
Je pense notamment au renouvellement des générations en agriculture. C'est un gros enjeu, on en a un petit peu parlé pendant les mobilisations.
Des mobilisations qui sont derrière nous, estime l'exécutif, qui entend ouvrir une nouvelle séquence.
Les labels rouges et autres labels bio ne suffisent plus. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire veut lancer un Nutri-Score sur le bien-être animal grâce à une lettre de A à E. Le consommateur serait averti des conditions de vie des animaux qu'il consomme. Un bien-être qui prendrait en compte l'élevage, le transport, la nourriture ou encore l'abattage. Il s'agit d'informer mais aussi de responsabiliser les consommateurs. Deux usines du groupe automobile Stellantis qui regroupe 14 marques comme Peugeot, DS ou encore Fiat. Deux usines donc sont toujours à l'arrêt. Un petit sous-traitant, MA France, qui leur fournit des pièces essentielles de carrosserie est en grève à Aulnay-sous-Bois. Il emploie 280 personnes et fait travailler une centaine d'intérimaires. Mais le site redoute une fermeture. Et les salariés, Maxime Debs, font grève pour se faire entendre.
Se faire entendre, obtenir des réponses sur l'avenir du site. Guerre optimiste, Franck, 53 ans, une carrière à l'usine.
Ça ne va pas durer très longtemps, le temps que PSA s'organise pour pouvoir produire sans nos pièces.
On craint ici tout simplement une délocalisation, que Stellantis décide de se fournir ailleurs.
Ici, c'était déjà préparé, ils avaient dupliqué des gammes, des outils, pour pouvoir lancer leur production de la Turquie. Voilà. On pense que la Turquie ne va pas tarder à démarrer. Donc nous, on est encore un petit pion.
Avec la sensation de ne pas compter, surtout pour ceux qui ont travaillé ici avec la blouse PSA il y a quelques années avant d'être externalisés.
Déjà à l'époque, ils nous avaient mis un couteau dans le dos, PSA. Donc on n'est pas étonné, mais on ne veut pas partir sans rien.
En cas de fermeture, les syndicats estiment à 70 000 euros minimum le montant du préjudice pour chaque salarié. Et si Stellantis décide de se fournir ailleurs, au final, il devra participer. La moindre des choses pour la scène. D'autant que le geste ne coûterait pas cher, selon lui, à Carlos Tavares. Sa rémunération record, forcément dans toutes les têtes.
Il n'y a rien à dire là-dessus. 100 000 euros, c'est...
Par jour.
Par jour, c'est indécent. Donc là, on leur fait mal, bien sûr. C'est le but aussi. On a montré qu'on est 300, mais à 300, on a fait quand même des gros dégâts pour Tavares. Mais ça, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on va continuer.
Stellantis, dont les deux usines d'Ordain dans le Nord et de Luton en Angleterre, resteront fermées encore jusqu'à mardi prochain, faute de disposer des pièces suffisantes fournies par les salariés d'Aulnay.
Et le travail doit reprendre en revanche ce matin à Poissy, chez Stellantis, où l'on assemble des Opel et des DS3. Un appel à la grève à la SNCF pour le 21 mai en Ile-de-France. Le syndicat Sudrail demande une indemnité brute de 100 euros net par jour pour ceux qui travailleront durant les Jeux. La direction propose la moitié. Des perturbations sont à prévoir sur les RER et les Transiliens.
Il est 7h37. La Russie a-t-elle eu recours à des armes chimiques?
Les États-Unis l'accusent d'avoir utilisé un agent chimique, la chloropicrine, contre les forces ukrainiennes, un dérivé du chloroforme, et ce en violation de la convention de l'utilisation des armes chimiques, et toujours au mépris de toutes les conventions. Gros plan ce matin sur les civils qui ont été faits prisonniers. Ils sont 7000 depuis le début de la guerre. Leurs proches se battent sans relâche pour obtenir des nouvelles, en général sans succès. C'est un reportage à Kiev de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry.
Le mari d'Irina a été arrêté à Boutcha le 22 mars 2022. C'est très difficile. Ma santé s'est beaucoup détériorée, surtout ma santé mentale.
Où est-il détenu? Est-il encore vivant? En 2 ans, 1 mois et 11 jours, Irina n'a jamais obtenu la moindre information officielle, mais elle s'accroche.
Quand je me réveille, il y a des photos de mon mari devant moi. Je les regarde, je les embrasse et je lui souhaite une bonne journée. Ses vêtements aussi sont là. Je les touche et je lui dis d'avoir du courage. Et je surveille les réseaux sociaux pour essayer d'avoir des nouvelles.
Le mari d'Olena, lui, a été arrêté près de Kherson. Journaliste retraité, il expliquait sur sa page Facebook comment résister à l'envahisseur. Des mois de silence, puis la trace d'un procès pour espionnage.
Le 6 octobre 2023, il a été déclaré coupable et condamné à 13 ans de prison. Je sais qu'il a été torturé à l'électricité, qu'il a été humilié et battu.
Ces civils, détenus au mépris de toutes les conventions internationales, intéressent moins le gouvernement ukrainien que les combattants qui, une fois libérés, pourront retourner sur le front.
Ça tourne mal dans les universités américaines. À UCLA, à Los Angeles, pour la première fois, des contre-manifestants cagoulés s'en sont pris aux militants pro-palestiniens qui occupent certaines parties du campus à coups de pierres et de briques. La police a dû intervenir. En France, le ministre aux comptes publics, Thomas Cazenave, explique dans les colonnes des Échos ce matin vouloir s'en prendre aux fraudes sur ma prime rénov', sur les aides à l'apprentissage ou sur le compte personnel de formation. Ces trois enveloppes mobilisent en tout 100 milliards d'euros d'argent public. Un projet de loi devrait être présenté cet automne. Enfin, ça fait plaisir et ça débarrasse. Une application vous propose des billets de théâtre invendus à la dernière minute. 72 heures avant le spectacle, vous pouvez trouver des places entre 50 et 70% moins chères que leur prix initial. Ça s'appelle Ticketnook. Fanny Imbert a rencontré des utilisateurs devant les portes du Théâtre 13 à Paris avant que la représentation ne commence.
Elsa, 28 ans, vient de récupérer sa place au guichet. Elle l'a achetée à la dernière minute sur l'application Ticketnook.
Là, je l'ai payé 8,80€ à la place de 21€ et quelques, je crois.
Et sans cette réduction-là, vous auriez pu venir ce soir ou pas ?
J'aurais été un peu frileuse. Et là, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et je suis très contente.
Un outil innovant pour remplir sa salle, mais aussi pour toucher un nouveau public. Pour Bérangère Malgarini, directrice adjointe du Théâtre 13.
Nous, ça nous met en relation avec un public que nous n'aurions sans doute peut-être pas capté directement. Là, d'un seul coup, on a une plateforme de connexion et qu'on souhaite entretenir pour en faire des futurs spectateurs aussi pour le Théâtre 13.
Des jeunes qui parlent aux jeunes pour les faire venir au théâtre, c'est toute l'ambition de Lucille Gilbert. À 22 ans, l'étudiante a fondé l'application avec trois amis d'enfance.
Il faut absolument changer les habitudes culturelles aujourd'hui des jeunes et leur permettre d'aller au théâtre en leur donnant ce goût-là pour le spectacle, qu'ils se rendent compte à quel point c'est trop chouette. Toujours dans une volonté de montrer que le théâtre n'est pas élitiste et que tout le monde peut franchir la porte d'un théâtre et trouver sa place parmi les spectateurs.
L'équipe est partenaire d'une soixantaine de théâtres parisiens, mais souhaite s'étendre partout en France dès la rentrée prochaine et même, pourquoi pas, dans d'autres pays d'Europe.
Voilà, déjà 50 000 utilisateurs. Retenez bien le nom de cette appli, Ticketnook.
Christelle Rebière, merci. À suivre, Yaël Gauze, Dominique Seux et Sonia De Villers.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi...
Je m'appelle Zao.
Faites toujours beau. Au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération.
Je suis et sûrement pas l'inverse.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
Un concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
7h42.
Le 7-10 sur France Inter.
Et c'est l'édito politique, Yaël Gauze. A-t-on franchi un palier dans l'ingérence du politique dans l'enseignement supérieur ?
Ce jeudi est donc jour de Town Hall Meeting à Sciences Po, traduisé par réunion publique ou assemblée générale. Ces mots, made in USA, qui horripilent aujourd'hui une bonne partie de nos dirigeants, de Gabriel Attal à Valérie Pécresse, convaincus que leur ancienne école, vivier de l'élite républicaine, dérive vers le wokisme. En réalité, ce matin, la direction propose simplement un temps de discussion avec enseignants, salariés et étudiants pour revenir sur les récentes mobilisations pro-palestiniennes. Le problème des œillères, Nicolas, c'est qu'elles rendent la vision sélective.
Que voulez-vous dire ?
Qu'on a perdu tout sens de la mesure. Et rien qu'en écrivant cet édito, je me dis que déjà qu'il sera forcément mal interprété ou détourné. Alors de quoi ? De qui parle-t-on ? De quelques étudiants, entre 1 et 5% des effectifs du campus parisien, qui se mobilisent pour la cause palestinienne et contre la politique de Netanyahou. Où est le scandale? Pourquoi l'émotion devant l'implacable riposte d'Israël, après l'horreur terroriste des pogroms du Hamas, ne pourrait-elle pas s'exprimer? Il y a 50 ans, les mêmes qui fustigent aujourd'hui cette jeunesse écervelée occupaient les amphis contre la guerre au Vietnam. Et voilà qu'on reproche à Sciences Po d'avoir laissé faire, d'avoir perdu toute autorité, de ne plus mériter d'être financée. Valérie Pécresse suspend les fonds de la région Île-de-France, pas un centime pour les alliés de l'islamo-gauchisme. Manuel Valls verrait bien une mise sous tutelle, parce que le poisson pourrit par la tête, disait Gabriel Attal en mars en débarquant au conseil d'administration. Inquiétante pression exercée sur une grande école.
Pourquoi inquiétante?
De quel droit couper les vivres de tous pour quelques étudiants bloqueurs? C'est fascinant de voir comment les mêmes qui redoutent l'avènement d'un pouvoir autoritaire décomplexent et préparent le terrain à ceux qui l'exerceront peut-être un jour. Inquiétant parce que tout ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Non, Sciences Po n'arrêtera pas ses coopérations avec les universités israéliennes. Non, Sciences Po ne lèvera pas les sanctions pour les étudiants qui flirtent avec l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, l'établissement a organisé dans ses murs 23 conférences, cours, débats pour mieux comprendre et s'en prendre parti le conflit israélo-palestinien.
Êtes-vous ce matin le porte-parole de Sciences Po, Yaël?
Non, je n'y ai même pas étudié. La question se pose pour toute université prise dans la tenaille de l'instrumentalisation. Car si la cause est légitime, la méthode pour l'exprimer peut ne pas l'être. Les opposants à la guerre au Vietnam ne disaient pas que l'État américain devait disparaître. Pourquoi ces mains rouges, symbole ambigu qui renvoie au massacre de deux réservistes israéliens à Ramallah en 2000? Enfin, qui est dupe du sillon creusé par les insoumis dans une campagne qui parle plus de Gaza que d'Europe? Personne. Mais de l'autre côté, l'hégémonie du RN pousse l'exécutif à la faute. Autorité, 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 apologie de terrorisme, LFI, amis des mollahs, scande le garde des Sceaux au Parlement. Et au milieu du champ de bataille, des présidents d'université inaudibles devant tant de manichéisme. À Sciences Po, Jean Basser dirige par intérim. L'appel à candidature démarre aujourd'hui. Le sens du compromis est-il encore une qualité à valoriser sur le CV? Bon courage à son successeur.
Merci Yaël Gauz, et on reparle évidemment de tous ces sujets à 8h20 dans le Grand Entretien.
L'édito éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Dominique Seux, nous sommes entrés, chacun l'a compris, dans une période de pont et de viaduc.
Oui, et Nicolas, nous sommes entrés dans un moment très particulier pour le travail. Cette semaine, le 1er mai n'a pas créé de pont, mais la possibilité d'un viaduc avec deux jours de congé pour prolonger le dernier week-end ou sauter directement au prochain. Mais surtout, la semaine prochaine, le 8 mai, puis le jeudi d'Ascension, offriront un vrai pont avec 5 jours de repos pour un seul vendredi de congé. Ça, c'est malin. Mieux encore, les plus malins des malins vont enchaîner à partir de demain soir 10 jours de repos en posant seulement 3 jours de congé. Alors là, on ne parle pas d'un pont ni d'un viaduc, mais d'un long aqueduc. Aucune étude ne nous dit combien de Français vont en profiter, mais si on regarde autour de nous et ce que prévoit Bison Futé, ça va être massif.
Et donc ?
Eh bien donc, l'angle économique le plus classique est de mesurer l'impact économique de ces jours fériés. Franchement, c'est ennuyeux. L'INSEE nous apprend juste qu'en 2024, le profil de l'année et la place des jours fériés contribuent à la croissance à hauteur de plus 0,10 points. 2024 est en effet une année bissextile avec un 29 février travaillé et on a 2 lundis ouvrés de plus que d'habitude.
Je sens qu'il y a un mais.
Oui, car le plus intéressant est de mesurer, je crois, la fracture sociale créée ces dernières années entre les cadres des entreprises et les autres salariés, tout au long de l'année et pas seulement en ce moment. De quoi parle-t-on? On parle du cumul de 2 sigles, RTT ETT, réduction du temps de travail et télétravail. L'encadrement, on le sait depuis longtemps, a été le grand gagnant du passage aux 35 heures il y a 20 ans. Les ouvriers et les employés sont bien passés de 39 à 35 heures, mais ont vu leur salaire stagner ensuite. Les cadres, eux, ont grappillé des jours de RTT avec souvent des plus longs week-ends. Depuis 2019, seconde révolution, les technologies du distanciel ont encore favorisé les cadres, pas seulement eux, mais eux surtout. Alors que pour les salariés des usines et du commerce, les enseignants ou les bibliothécaires liés à leur lieu de travail, ça ne change absolument rien.
Avez-vous un exemple, Dominique ?
Eh bien, une grande entreprise du CAC 40 a regardé de près de façon anonymisée paraît-il, les heures de connexion ordinateur de ces cadres. Elle a constaté un creux le jeudi en fin d'après-midi. S'agirait-il par hasard du trajet vers un lieu de week-end ? Puis tiens, des reconnexions jusqu'à tard le soir, avant un vendredi nettement moins intense, où aucune réunion ne serait en réalité possible dans l'après-midi. Tant mieux évidemment si ça ne pose pas de problème à l'entreprise et satisfait ses cadres, mais disons que tout cela crée un monde de travail à deux vitesses.
Dominique Seux, merci.
France Inter.
Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est procureure de la République de Paris.
Paris, Nicolas, c'est le premier parquet de France. 130 magistrats avec des compétences locales, certes, mais aussi nationales, en matière de criminalité organisée, de trafic de drogue, dont le ministre de la Justice fait sa grande priorité et l'objet d'un plan choc. Bonjour, Laure Becchio.
Bonjour, Sonia De Villers.
Vous venez d'être auditionnée au Sénat sur le trafic de drogue en France, et pour mesdames et messieurs les sénateurs, pour qu'ils comprennent bien à quoi vous vous affrontez, vous commencez par leur dire que le crime organisé, le grand banditisme, c'est bien pire dans la réalité que dans les séries télé. Pourquoi marteler que la réalité dépasse la fiction ?
C'est le marteler parce qu'il faut que chacun soit à la hauteur du défi. Non seulement l'institution judiciaire, mais également tous les parlementaires et toutes les institutions. Parce que la très grande criminalité organisée, qui est la spécificité de la Junalco, c'est une criminalité organisée flexible, détachée de tous les territoires, dotée de moyens considérables. Cette grande criminalité, on peut dire qu'elle n'a qu'un seul objectif, c'est capter les fonds où qu'ils se trouvent. Elle n'a qu'une seule doctrine, et bien c'est déployer véritablement tout ce qu'elle peut déployer. La fin justifie les moyens. Et puis si je devais dire qu'elle a une loi, je dirais que c'est la loi du plus fort. Et donc notre territoire est, comme tous les territoires européens et mondiaux, impactés, et particulièrement impactés.
Alors justement, la France est impactée comme tous les territoires européens et mondiaux, mais avec quelques spécificités. J'en veux pour preuve la grande étude, le rapport remis par Europol, l'agence européenne de police, il y a un mois, qui a analysé 821 réseaux criminels ultra menaçants dans l'Union européenne. La France apparaît comme le pays où se produisent le plus de crimes contre la propriété. Cambriolage, braquage, vol de voitures. L'Hexagone est aussi une plaque tournante du trafic de migrants. Et enfin, la France est championne dans le trafic d'êtres humains, à majorité en termes d'exploitation sexuelle. Comment on explique ces spécificités, Madame la procureure ?
Alors, ces spécificités tiennent tout simplement à la configuration géographique de notre territoire, c'est-à-dire que c'est un territoire non seulement de transit, mais qui peut être un territoire d'implantation. Toutes les filières criminelles des réseaux passe par notre pays qui est ouvert à la fois sur l'Atlantique, la Méditerranée et sur les zones du pays de l'Est.
C'est une question géographique. On est en plein cœur de l'Europe.
Il suffit de regarder une carte très souvent
comprendre. La Junalco dont vous venez de parler, c'est donc cette juridiction de lutte contre la criminalité organisée qui a été créée il y a 4 ans. En fait, c'est une sorte de l'équivalent de parquet anti-mafia qu'on a dans d'autres pays européens. Vous visez des cibles très haut placées dans les organisations criminelles. Vous avez récemment renforcé ce parquet-là de plusieurs nouveaux magistrats. Ça n'est toujours pas assez ?
Alors actuellement, la Junalco est composée de 21 magistrats. Et effectivement, ce n'est pas assez vu la hauteur des défis qui nous attendent et que l'on s'efforce de remplir. Bien sûr, le garde des Sceaux a obtenu de forts moyens. Et ce qui est rassurant et ce qui est motivant, évidemment, pour les collègues et pour moi-même, c'est que parmi ces moyens, il y a une filière tout à fait dédiée aux moyens des GIRS et de la Junalco.
Oui, c'est ça, qui sont ces deux juridictions locales et nationales. Il vient aussi d'annoncer un futur parquet national chargé de la criminalité organisée. C'est une bonne nouvelle pour vous ?
Alors, la Junalco est déjà le premier parquet national de lutte contre la criminalité organisée.
C'est une strate administrative de plus ? C'est
alors,
quoi ?
Je dirais que la réflexion en est à ses prémices, car vous l'avez vu, annonçant ce parquet national, il a tout de suite indiqué qu'il confiait à Jean-François Ricard une mission d'étude, de concertation, afin de caractériser les périmètres maître de ce qui serait ce nouveau parquet. Alors bien sûr, en tant que procureur national de lutte contre la criminalité organisée, je vais être associé à cette réflexion, Jean-François Ricard me l'a dit, comme les collègues de terrain de la Junalco, des GIRS et les collègues de terrain tout simplement. Alors, je crois que Jean-François Ricard est amené à réfléchir sur la création de ce nouveau parquet.
Jean-François Ricard, il a été procureur national, spécialisé dans le terrorisme, et maintenant il est au cabinet du ministre comme conseiller.
C'est exactement ça. Et donc, il réfléchira sur un socle d'engagement du ministre et d'un état d'esprit, ne pas dévitaliser les GIRS, ne pas dévitaliser la Junalco.
On vous a bien compris. Parlons du trafic de drogue, Laure Bécquiot. Il est au cœur donc des priorités gouvernementales. Un nouveau statut de repenti pour les trafiquants de drogue, un peu sur le modèle italien. Hein. Voilà, il existait déjà. Il n'était pas appliqué. Donc pour vous, ce nouveau statut, c'est une bonne chose ?
Oui, c'est une bonne chose. Ça fait partie des mesures que l'on souhaite. Évidemment, globalement, quand je dis « on », c'est tous ceux qui luttent contre la très grande criminalité organisée. Il faut permettre un statut de repenti élargi à celui qui commet des infractions, y compris contre les atteintes aux personnes, ce qui n'est pas le cas dans notre législation actuellement.
Donc on va parler très concrètement, ça veut dire que les juges et les policiers sont prêts à collaborer avec quelqu'un qui a du sens sur les mains ?
Ils sont prêts à recueillir des renseignements pour atteindre le niveau supérieur de criminalité que nous souhaitons atteindre.
Au Sénat, vous alertiez sur deux dangers majeurs. D'abord, une sévère aggravation de la guerre des clans. Dites-vous, qu'est-ce que cela induit dans le quotidien des Français ?
Alors, ce qui induit dans le quotidien des Français, bien, c'est que effectivement, il y a des luttes de territoire sur au niveau local. Chacun essaye d'avoir sa part des bénéfices illicites du trafic de stupéfiants. Ça peut se traduire dans certains quartiers par le fait que on n'y circule pas librement, qu'on est contrôlé lorsqu'on accède à un immeuble. Ça peut malheureusement, et on l'a vu trop fréquemment, conduire à des règlements de compte qui atteignent non seulement des trafiquants, et c'est déjà trop, mais qui atteignent aussi des passants et des personnes totalement déconnectées de ces trafics.
Ensuite, vous avez pointé un risque accru de corruption. Corruption de policiers, corruption de douaniers, corruption de greffiers, corruption d'agents municipaux et la corruption des juges. Madame la juge, ça existe ?
Je l'avais pointé déjà dans un de précédents propos. Alors, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, dans les dossiers qu'il y a sur la Junalco, je n'ai pas cet exemple premier. Mais en tout cas, il ne faut pas se considérer plus à l'abri, puisque la grande spécificité de la criminalité organisée, quand je vous le disais, c'est que tous les moyens sont bons. Eh bien, elle analyse ce qui constitue pour elle des entraves. Et on ne peut pas exclure que les magistrats soient considérés comme des entraves. Alors il y a deux solutions, être plus malin qu'eux, c'est toujours possible, mais il y a l'autre solution, c'est d'avoir de l'entrisme, un phénomène d'entrisme dans la magistrature.
Et puis il y a aussi ce risque de porosité, d'infiltration en fait, de notre vie quotidienne à nous tous, citoyennes et citoyens français, par le biais de la vie économique. Vous parlez de ces petites et moyennes entreprises qui sont rachetées par le crime organisé, vous parlez de ces marchés publics qui sont infiltrés par le crime organisé, et puis le rapport d'Europol pointe les agences immobilières, les sociétés d'import-export, les sociétés de vente de fruits et légumes comme des cibles particulières.
Oui, on pourrait faire une liste éternelle. Encore une fois, la criminalité organisée cherche à avoir tous les moyens qui lui permettent de capter des fonds et de faciliter le transit de ces produits illicites. Toute société de transport, on pourrait ajouter des sociétés d'ambulance par exemple, hein, qui peuvent être utiles. Mais c'est de l'entrisme aussi.
Société d'ambulance.
Voilà. C'est de l'entrisme aussi à deux niveaux.
Vous avez déjà eu des dossiers où les sociétés d'ambulance transportent de la drogue et des armes ?
Pas particulièrement, mais je sais que ça a existé.
D'accord.
Il y a aussi de l'entrisme, tout simplement, investir des sociétés pour capter les fonds publics. On sait notamment en Italie que nombre de mafias italiennes investissent les sociétés de traitement des déchets. L'environnement, ça sera le premier, le futur domaine, si ce n'est pas déjà le cas, de la très grande criminalité organisée.
Alors, Laure Bécquiot, revenons à Paris, hein, puisque Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. Quel type de délinquance, quel type de criminalité attendez-vous en particulier pendant ces Jeux ?
Alors, j'ai pas complètement de boule de cristal. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que ce que l'on anticipe, c'est pas forcément un changement de nature sur la plaque parisienne, en son temps, de la criminalité, mais simplement, je dirais, la même délinquance puissance X, puisque Paris a pour caractéristique d'avoir toujours des touristes en juillet et août. Simplement, il y aura beaucoup plus de touristes. Ouais. Donc, ça veut dire que les délinquants vont s'attaquer à ces touristes de façon, je dirais... j'ose le dire, classique, les vols de montres, les vols à la tire, donc tout cela, ça peut être une délinquance classique, si je puis dire. Et puis il va y avoir une délinquance plus spécifique, on craint les escroqueries au logement.
Le proxénétisme.
Le proxénétisme, bien sûr, un afflux de proxénétisme plus important. Et puis, au-delà de la plaque parisienne, et là encore, au regard des spécificités du parquet de Paris, ce dont on est certain, en revanche, c'est que les cyberattaques vont se multiplier.
Pendant les JO.
Pendant les JO.
Merci, Laure Bécuau.
Merci à vous.
Et merci, Sonia De Villers. 7h58.
France Inter.
Mathieu Noël, ce matin, je vous sens nerveux. Y aurait-il un lien avec la présence dans nos locaux de Laure Bécuau, procureur de Paris ?
Oui, c'est ça, Nicolas. Essayez de rester calme, d'avoir l'air le plus normal possible. Souriez. Mais vite, les amis, planquez la schnouf ! Effacez les numéros de vos dealers, elle peut saisir les portables. Aérez le bureau d'Yael Gauz et décrochez ses posters Legalize Ganja. Jetez la pipe à crack de Dominique Seux dans la Seine. Votre naïveté confondante, Sonia. Madame la procureure n'est pas venue pour une interview. Elle a quand même autre chose à foutre. C'était un cheval de Troyes pour dégainer une opération place nette triple XL turbo boost plus au cœur du service public.
Quelle horreur.
Oui, Nicolas. Et entre ce qui se cache dans le troisième tiroir de votre bureau, parce que soyons honnêtes, pour se lever chaque jour à 2h du mat, en termes de poudre, il faut un peu plus que du Nesquik. Et ce qui va se passer si par malheur, madame le procureur met la main sur Pierre Aski, le pit de Hurty de la Géopole, qu'on a essayé de sevrer de l'héroïne.
Ils avaient tout essayé. Les cassettes porno et même le Viagra.
Mais rien n'a marché, hein. Si notre invité découvre ce qu'il ramène de ses voyages grâce aux valises diplomatiques de vieux copains qui bossent en ambassade. Allez hop, à Fresne le Pierrot. Et le monsieur qui titube en chantant là-bas au fond du couloir, qu'on dirait Kenji Girac en fin de gala, il est avec vous aussi ? Oui, c'est Claude Askolovitch.
Petit papa, oui. Voici l'ami Carême. Car te voici déguisé.
À Fresne aussi ? Non, non, je plaisante, évidemment, madame le procureur. Vous ne trouverez rien de compromettant chez nous. Ici, c'est la radio, pas la télé. À parler à Salamé, personne n'a jamais consommé de cocaïne.
La cocaïne, c'est un remède à la timidité.
Oui, oui, non, mais là, la parole n'est pas à la défense. Et n'embête pas madame la procureure qui fait déjà un métier si difficile. Je le sais, j'ai vu la série Femme de loi. Quelle bosseuse cette Natacha Amal. Beaucoup d'admiration pour cette femme qui doit être, j'imagine, votre modèle. Mais on m'a dit que vous aussi, vous faisiez de